Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Bac FM. Il est bon de se détendre en musique, mais il est bon de s'informer un peu. Nous vous proposons tout de suite une émission consacrée à l'illettrisme, une délicatesse, je crois, pour reprendre une expression du président du conseil départemental, une délicatesse avec l'écriture et avec la lecture qui concerne dans les faits beaucoup plus de personnes qu'on imagine. En revanche, on peut entrevoir, on peut imaginer les difficultés au quotidien de l'illettrisme et les risques qui en découlent, de la difficulté par exemple à lire une notice, jusqu'à l'isolement, la marginalisation, la précarisation. Il se trouve que le conseil départemental de la Nièvre, présidé par Fabien Bazin, a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps en menant une politique de lutte contre l'illettrisme efficace qui passe par la plateforme « Être en toutes lettres ». Pour parler de ces actions et de cette plateforme, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans le studio de Bac FM Dominique Robichon. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous travaillez au service inclusion sociale du conseil départemental et vous êtes le coordinateur de cette plateforme et de ses actions. Et puis Ajar Ouari.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes chargé d'animation de la plateforme illettrisme, de la plateforme donc Être en toutes lettres. Alors première question pour cette émission, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, est-ce que l'un ou l'autre vous pouvez préciser, définir exactement ce qu'est l'illettrisme ?
Oui, en fait, en quelques lignes ou en quelques mots, l'illettrisme désigne la situation des personnes ayant été scolarisées en France, mais qui n'ont pas acquis ou qui ont perdu des bases de lecture, d'écriture ou encore de calcul qui sont indispensables pour la vie quotidienne.
Parce qu'on confond parfois l'illettrisme avec l'analphabétisme. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, l'analphabétisme, c'est le simple fait de ne jamais être allé à l'école. Voilà. Et on pourrait aussi, pour certaines personnes, peut-être confondre avec le français langue étrangère, où là, les personnes ont pu être scolarisées dans leur pays d'origine, mais pas en langue française.
Donc, quelqu'un d'illettré, c'est quelqu'un qui rencontre des difficultés avec la lecture, avec l'écriture, et qui pourtant a été scolarisé.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez, si on essaye de chiffrer, nous dire à peu près combien de personnes sont concernées ? Alors, on imagine à des degrés divers. Est-ce que vous pouvez à peu près chiffrer ça au niveau national et puis au niveau départemental ?
Alors, à partir des enquêtes INSEE qui sont menées au niveau national, on estime qu'il y a plus de 10% des personnes âgées de 18 à 64 ans, soit presque 4 millions de personnes, qui éprouvent d'importantes difficultés dans au moins une des compétences comme la lecture, l'écriture ou le calcul, auxquelles on pourrait même rajouter le numérique, l'accès au numérique. Ce qui veut dire dans la Nièvre, si on fait des estimations un peu plus larges, en dehors de ce public aussi, qu'on pourrait atteindre plus de 10 000 personnes concernées.
Oui, ce qui est quand même pas négligeable pour la population du département qui est de 200 000 personnes.
C'est ça.
Et on en parlait un petit peu hors antenne. Est-ce que les zones rurales sont plus touchées que les zones urbaines par l'illettrisme ?
Alors, on a des chiffres au niveau national qui disent que oui, on peut avoir un nombre assez important de personnes concernées en zone rurale. Mais parallèlement, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver sur les quartiers politiques de la ville, par exemple.
Alors, on parle de l'illettrisme, mais il y a aussi l'innumérisme. On peut voir, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui publie ces chiffres-là. Ça concerne 3 200 000 personnes, et donc c'est plus important que l'illettrisme au sens strict. Est-ce que la plateforme Être en toutes lettres aussi agit pour les difficultés d'innumérisme ?
Ça va être dans ses orientations de développer et d'essayer de voir ce qu'elle peut faire sur ce sujet, effectivement. Savoir quand même que l'accès au numérique, ça mobilise 95% des capacités de base en lecture et en écriture. Donc il y a aussi ce sujet qui domine et qui perturbe l'accès au numérique.
D'accord. Les personnes qui sont si on essaie de faire un peu des profils, des personnes qui seraient plus touchées par l'illettrisme, est-ce que ce sont plutôt des hommes ou des femmes ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou des personnes âgées ?
Alors, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui sont concernées. Après, sur les jeunes, dans les données nationales, on a noté malheureusement un léger frémissement à la hausse du nombre de jeunes pouvant être concernés aussi par cette situation. Et puis, on a quelques données au niveau départemental qui laissent entrevoir que des enfants ont des difficultés sur la lecture et l'écriture en primaire notamment, et que c'est une proportion un peu inquiétante, quoi.
Parmi les idées reçues qu'on a concernant l'illettrisme, on pense que ça touche surtout des personnes qui n'ont pas d'emploi, des personnes qui n'ont pas de travail. Or, les chiffres montrent que la moitié en fait, des personnes qui sont touchées par l'illettrisme ont un emploi.
C'est ça. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Vous avez effectivement, je crois, 55% à peu près des personnes qui ont des difficultés de ce type, qui sont en situation d'emploi, donc emploi tout confondu, hein, bien sûr. Une personne en situation d'illettrisme peut trouver un travail, mais elle va pouvoir avoir aussi des difficultés à évoluer dans son travail et à suivre les évolutions de son entreprise et de son emploi. Voilà, donc ça peut représenter même éventuellement une perte de son travail s'il n'y a pas d'évolution en fait sur ces apprentissages de lecture, d'écriture par exemple.
Donc on anticipe peut-être un peu sur la suite, mais ça signifie que si une personne sur deux touchée par l'illettrisme a un emploi, il va falloir travailler avec les entreprises pour essayer de remédier justement à ces difficultés, à ces délicatesses avec la lecture et l'écriture.
Oui, c'est un des enjeux. C'est un des enjeux du plan d'action, effectivement. Il y a notamment la base qui est la sensibilisation des employeurs qui ne sont pas forcément au fait de ce genre de situation. Si on relit le petit livre d'Aline Le Guluche, « J'ai appris à lire à 50 ans », ce petit livre explique qu'une personne a réussi à rester pendant un petit bout de temps à travailler dans un hôpital avant de s'apercevoir qu'il fallait qu'elle se forme si elle voulait conserver son emploi. Et donc il y a cette difficulté pour les entreprises à repérer les personnes concernées, et puis après il y a comment est-ce qu'on peut en parler avec les personnes concernées et comment est-ce qu'on peut les accompagner en termes de formation.
Oui. Alors on va venir à ces questions. Faisons un petit détour par les causes, essayons de cerner les causes de l'illettrisme, puisque si on veut lutter efficacement contre l'illettrisme, donc contre ses effets, il faut sans doute bien les connaître et bien les identifier. Quelles seraient les principales causes et aussi sur quel point vous risquez, vous avez déjà commencé de concentrer votre action?
Alors les causes... Les causes, elles peuvent être variées. Il peut y avoir des difficultés passées dans les apprentissages sur la période de l'école primaire. Il peut y avoir aussi des difficultés pour les parents eux-mêmes à suivre l'évolution de la scolarité de leur enfant, à pouvoir les accompagner dans des bonnes conditions aussi. Et notamment suivre la progression, leur progression, leurs devoirs, et faire que l'enfant puisse être un petit peu perdu, ça peut arriver. Il y a aussi des enfants qui ont des difficultés, qui peuvent avoir eu des difficultés par ce qu'on appelle les fameuses 10. Mais j'aime à dire que toutes les personnes de situation 10 ne sont pas en situation d'illettrisme, je préfère le rappeler. Et par contre, voilà, des personnes qui puissent avoir des difficultés cognitives qui puissent gêner les apprentissages, en fait. Voilà. Après, ça demande des difficultés scolaires. Ça peut, voilà, ça, selon les familles, le niveau scolaire, enfin le niveau social. Oui. Des familles, il peut y avoir, des moyens supplémentaires dévoués pour l'enfant ou pas aussi.
D'accord. Alors, on aura l'occasion d'interviewer quelqu'un avec BAC FM qui, justement, profite de cette plateforme et qui est en situation d'apprenant. Est-ce que c'est le bon terme pour, puisque ça peut être stigmatisant de dire des illettrés? J'imagine.
Oui, alors bien entendu, l'illettrisme, on évite de prononcer ce mot, ouais. Effectivement, parce que ça renvoie, et notamment dans les anciennes générations, ça renvoie à des reproches ou à des principes un peu de culpabilisation, notamment à l'école, dans la cour de l'école, celui qui ne sait pas lire, voilà. Donc il y a effectivement, on parlera d'apprenant, puisque on n'est pas non plus dans un accompagnement, dans une plateforme, on n'est pas sur de la formation professionnelle, sinon on parlerait de stagiaire. Et là, on est bien effectivement sur des apprenants qui sont accompagnés par des adultes individuellement pour progresser en toute confiance.
Alors est-ce que, Hajar Houari, vous pouvez nous dire un peu les difficultés qu'un apprenant peut rencontrer dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours?
Des apprenants, ils peuvent, l'illettrisme en fait, il peut entraîner des difficultés, par exemple la difficulté d'accès à la formation, à l'emploi, aux soins, au logement, à la vie sociale et culturelle, au suivi de la scolarité de ses enfants, à faire ses démarches administratives sur internet et d'autres difficultés dans leur vie quotidienne.
Donc c'est vraiment toute la vie qui devient presque insupportable si on n'arrive pas à lire une notice de médicament, si on n'arrive pas à lire un formulaire, si on n'arrive pas à signer, à remplir un chèque, les transports.
Alors on est, je peux me permettre, en fait les personnes concernées vont devoir s'appuyer sur leur entourage. Mmh. Ça peut être demander à un enfant de faire les chèques pour la personne en fait, ça peut être demander à son enfant de lire un courrier reçu dans la boîte à lettres. Donc effectivement c'est les personnes qui n'ont pas forcément appris comme il fallait la lecture et l'écriture vont devoir s'appuyer sur les autres pour arriver à avancer, mais ça demande de l'énergie, ça demande des adaptations et ça génère du stress, ça génère aussi, ça peut générer aussi du mal-être et voilà, alors que par d'autres solutions, la personne peut se détacher de ce mal-être en fait.
Alors, comme vous travaillez au conseil départemental, est-ce que le conseil départemental aussi, c'est un vaste chantier, mais on en parle souvent, pense justement à quelque chose comme de la simplification administrative ou de l'accompagnement administratif pour remplir tous ces papiers qui peuvent terroriser. Vous parliez de l'accès au droit, justement, quand on ne les connaît pas, le droit semble plutôt quelque chose qui menace que quelque chose qui protège.
Alors, il y a des choses à faire après. Nous allons voir comment on peut le faire. Mais il y a des choses à faire avec des méthodes de simplification effectivement administrative. Il y a notamment une méthode qui s'appelle « facile à lire et à comprendre » pour simplifier la lecture de documents et rassurer le lecteur.
D'accord. Alors, avant de marquer une petite pause, maintenant qu'on voit mieux de quoi il s'agit, comment on peut détecter, repérer, à quel signe quelqu'un qui est concerné par l'illettrisme, et si on a l'intuition que cette personne en souffre, comment aborder la question avec cette personne, comment l'aider?
Alors là, si vous avez 2 heures... je ne vais pas donner toutes les astuces, parce que sinon les personnes pourraient être tentées, pourraient parler cachées. Mais non, je plaisante. Mais en fait,
stratégie d'évitement.
Ce qui revient très souvent, c'est lors d'une démarche administrative, c'est de dire qu'on a oublié ses lunettes, par exemple. Mmh. Ça, ce sont des choses qui arrivent, ou alors que la personne a peur de faire des grosses bêtises en remplissant un document, ou alors ne va pas lire ou ne va pas écrire, ou va dire qu'elle a mal au poignet. Bon, ça, c'est des exemples. Hein. Ça fait pas une science. Mais voilà, il y a plusieurs exemples de ce type-là où la personne... Alors, ça peut générer d'autres soucis aussi, des retards sur des rendez-vous, ou alors des personnes qui vont arriver très en avance à leur rendez-vous parce qu'il faut qu'elles s'organisent pour pas rater le rendez-vous, tout simplement. Voilà, et puis après, est-ce qu'il y a d'autres idées à jarre?
Des difficultés, indices pour retrouver des adresses, reconnaître des lieux où,
Elles vont pas lire, c'est pas des personnes qui vont lire devant vous, tout simplement. Enfin, là où vous allez leur transmettre un document, elles vont pas le lire, alors qu'une autre personne ouvrirait le document, par exemple, devant vous.
Et comment on aborde justement le sujet avec ces personnes? Donc trouver une manière de contourner leur contournement.
Déjà, je pense que c'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, et qu'il faut établir une relation de confiance avec cette personne en fait, parce que l'idée c'est pas de la juger, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire culpabiliser une personne, mais simplement pour dire qu'elle fait partie de centaines de milliers de Français. D'habitants en France qui ont cette difficulté, qu'elle n'est vraiment pas toute seule à avoir ce type de difficulté, et que à partir de là elle a des possibilités peut-être de trouver des solutions pour l'aider dans son quotidien, et qu'en plus si par exemple l'école n'a pas été un bon souvenir pour elle, ça tombe bien, elle retournera pas à l'école. Elle sera accompagnée par un adulte, tout va bien, c'est un rapport d'adulte en adulte avec une relation de confiance et d'aide et de patience, parce que va falloir prendre un peu de temps pour apprendre, mais voilà, c'est pas grave.
Eh bien, merci Dominique Robichon et Aja Ouari pour ces informations, pour ces renseignements. On marque une pause musicale et on se retrouve très vite sur BAC FM. À tout de suite. Nous voici de retour dans le studio de BAC FM en compagnie de Dominique Robichon qui travaille au service inclusion sociale du conseil départemental, qui est coordinateur pour la plateforme Être en toutes lettres, et Aja Ouari, vous êtes chargé de l'animation de cette plateforme qui lutte contre l'illettrisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous parler un peu plus de cette plateforme Être en toutes lettres et nous indiquer avec quelles associations, quels acteurs vous travaillez?
Oui, alors la plateforme départementale lutte contre l'illettrisme est en toutes lettres. Elle résulte d'un partenariat entre le conseil départemental et la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre, qui est chargée de l'animation de cette plateforme. L'objectif de cette plateforme, elle est de proposer un accès facilité à l'information, au conseil et à l'accompagnement pour tous. Alors pour tous, ça veut dire que n'importe quel Nivernais peut contacter la plateforme, notamment par l'intermédiaire d'un numéro vert gratuit, qu'on pourra peut-être donner peut-être en fin de réunion.
En fin d'émission, bien sûr. Oui.
Et puis, tous les professionnels qui accueillent ou qui accompagnent des personnes peuvent prendre contact pour un avis, pour une orientation. Et puis par professionnel, c'est au sens très large, hein, puisque ça peut être des travailleurs sociaux. Mais tout à l'heure, nous avons parlé des entreprises. Une entreprise peut prendre contact pour demander des renseignements, ou des professionnels d'accompagnement, mais aussi des collectivités locales qui sont en contact direct avec le public.
D'accord. Alors on imagine que vous avez besoin de moyens et aussi de moyens humains, et les différents acteurs que vous avez cités aussi, il est possible de rejoindre une association partenaire pour prêter main forte si par exemple on a été professeur de français, enseignant en français et qu'on souhaite continuer à enseigner d'une autre manière ?
Ah oui, tout à fait. Les bonnes volontés sont les bienvenues, bien sûr. Et ça peut être effectivement des personnes, des enseignants qui partent à la retraite ou qui sont à la retraite. Mais pas seulement. J'avais pour écho l'association sur Decize, l'association Savoir Lire et Écrire en Sud-Nivernais, qui nous expliquait qu'elle avait des profils variés dans ses bénévoles. Des personnes qui travaillaient dans des entreprises aussi, ou... Voilà, la porte est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté. Elles seront accompagnées pour être efficaces.
Alors, cette plateforme va mettre en place 19 actions pour lutter contre l'illettrisme. Est-ce que vous pouvez en présenter quelques-unes, en indiquer quelques-unes ?
Oui, alors, je vais surtout évoquer le fait que les actions en question, dans les actions importantes, il y a les plus importantes, il y a une sensibilisation d'un maximum d'acteurs nivernais sur le sujet. Comme je vous expliquais au début, l'illettrisme est caché et il faut rappeler à tout le monde qu'il existe, en fait. Et donc, il y a un très gros travail de sensibilisation à faire, mais aussi d'échange sur les questions que vous avez évoquées sur comment on peut en parler et avec ces personnes aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident d'en parler avec elles. Il y a aussi ces sensibilisations qui concernent les employeurs, toutes les structures dont on a pu parler jusqu'à présent. Et aussi, il y a le développement de l'offre d'accompagnement, en fait. Hein, vous évoquiez le bénévolat. Eh bien, il faudrait que nous arrivions avec nos partenaires, avec l'aide des partenaires que nous avons sur la Nièvre. Il faudrait qu'on arrive à trouver des bénévoles partout et pas seulement dans une partie de la Nièvre. Mmh. Et parce que les personnes qui vont être en situation d'illettrisme, on a estimé qu'il y en avait 55% qui travaillaient sur n'importe quel type d'emploi, mais il y a celles qui ne travaillent pas. Et puis, il y a des questions de mobilité qui peuvent se poser, notamment. Donc, il faut qu'on travaille sur des solutions de proximité aussi. Donc tout ça demande des échanges avec de nombreux partenaires pour essayer de trouver des solutions un petit peu chirurgicales, on va dire, selon les territoires.
Alors pour insister sur un point, puisque nous sommes une radio lycéenne, là on va aller du côté des collégiens, mais on rappelle que les collégiens peuvent bien évidemment venir à BAC FM pour animer une émission. Le conseil départemental finance les collèges. De quelle manière vous pouvez mener des campagnes de prévention auprès des collèges?
Alors là, je vous dirais que pour l'instant, la partie appartient à plus à notre chargé de mission régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a établi des échanges avec le rectorat sur le sujet de l'illettrisme et qui a entamé un processus de passation d'évaluation EVA. C'est un outil numérique à destination de lycées professionnels, notamment, et qui est en train de se rapprocher des établissements pour faire un point de situation sur les niveaux des élèves.
Mmh. Est-ce que, Hajar Ouari, vous pouvez nous décrire un petit peu au quotidien votre travail d'animation de cette plateforme au conseil départemental ?
Alors, mon rôle en tant qu'animatrice de la plateforme Être en toutes lettres à la Fédération des œuvres laïques consiste à rencontrer les personnes, les accueillir. Je prends le temps de comprendre leur parcours, leurs envies, leur motivation et leurs difficultés. Et après évaluation, je les oriente vers un accompagnement adapté, que ce soit nos bénévoles qu'on a, parce qu'on a un réseau de bénévoles à la FOL, ou vers d'autres associations ou d'autres dispositifs. Parce que chaque personne qui entre dans ce dispositif à ses propres objectifs. Certains veulent pouvoir aider leurs enfants avec les devoirs, lire des histoires à leurs enfants, leurs petits-enfants, préparer le code de la route, reprendre confiance pour se former, trouver un emploi ou simplement être plus à l'aise dans leur quotidien. Donc je coordonne un réseau de bénévoles qui rendent tout ça possible. Ils sont engagés et formés par la FOL et donnent de leur temps, de leur énergie et surtout de leur bienveillance pour accompagner chaque semaine des apprenants dans des séances individuelles d'une à deux heures. Leur engagement est remarquable parce qu'ils prennent le temps de préparer leurs séances, d'adapter leur méthode et de créer une relation de confiance avec les personnes qu'ils accompagnent. Pour soutenir aussi cette dynamique, j'organise des temps de formation, des échanges de pratiques et un accompagnement régulier pour que chaque bénévole se sente reconnu, outillé et puis valorisé dans ce qu'il apporte.
D'accord. Pour revenir à la question des chiffres et puis peut-être des objectifs, vous nous avez indiqué que c'était sans doute 10 000 personnes dans le département qui étaient concernées. La plateforme, en ce moment, elle contribue à aider à peu près combien de personnes ? Ce serait quoi le ratio ? Et pour indiquer aussi les objectifs ?
L'objectif, en fait, 10 000 personnes, ça fait beaucoup aussi.
Oui.
Et toutes ne voudront pas. Et la question de l'accompagnement, c'est que des personnes vont vouloir rapidement peut-être, mais des personnes, il va leur falloir un certain temps pour vouloir être accompagnées. Donc l'objectif est de toucher un maximum de personnes en fait. Je dirais qu'il est là en fait. On a de la marge. On est par rapport à des comparaisons sur un ou deux autres départements, dans des associations qui accompagnent sur à peu près le même nombre d'habitants sur un département, on est sur des mêmes eaux. Quoi.
Alors on imagine que pour cet accompagnement, la présence humaine est décisive, mais allons peut-être du côté des outils ou des systèmes numériques qui permettraient de faciliter l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Vous avez parlé tout à l'heure de EVA. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça fonctionne et quelle est sa finalité et voir s'il y a d'autres dispositifs numériques qui permettraient de faciliter cet apprentissage ?
Alors, EVA est un outil d'évaluation à la fois des compétences de base, donc la lecture, l'écriture, le calcul, pour détecter si une situation d'illettrisme est là ou pas, et quel degré, quel niveau. Mais aussi un outil d'évaluation des compétences transversales et cognitives, comme pour valoriser justement les potentiels et les compétences de ces personnes en situation d'illettrisme. Ce qu'il faut justement valoriser la personne, et puis même s'il est en situation d'illettrisme, on manque de quelques compétences de base, mais la personne elle a des compétences et des potentiels qu'on doit valoriser, les compétences d'attention, d'organisation, de vitesse d'exécution, de comparaison, de tri, etc. Que l'outil EVA, il vient de mesurer, d'évaluer, et puis qu'on pourrait servir de cet outil justement pour évaluer les entrées, les orientations des personnes.
D'accord. Est-ce que vous rencontrez de temps en temps des personnes qui vous disent, au fond, parce qu'avec les systèmes numériques modernes, on pourrait, je ne sais pas, imaginons directement prendre une photo, flasher, et puis le téléphone va lire à notre place, des aides numériques qui se substituent à nos difficultés et qui rendraient peut-être, au fond, l'apprentissage de la lecture et même de l'écriture, puisqu'on peut dicter à son téléphone et c'est le téléphone qui écrit le message. Est-ce que ça ne rend pas l'illettrisme moins difficile et puis, du coup, l'apprentissage moins urgent ?
Alors on entend dans les adaptations, on entend effectivement que des personnes passent par leur téléphone pour lire des messages reçus ou pour lire un message pour le traduire en texte, ce qui n'est pas toujours une science exacte non plus dans la traduction. Voilà, donc il y a des choses qui existent aussi en termes, c'est quelque chose qu'on voudrait approfondir aussi. Il existe des applications, il y a la Banque de France a fait notamment une application par rapport au problématique de calcul pour gérer les budgets. Et il y a d'autres applications qui peuvent exister pour aider au quotidien. Il y a aussi, je crois, le réseau des structures d'insertion par l'activité économique de Bourgogne-Franche-Comté qui a créé aussi une petite application simplifiée en méthode, ce qu'on disait facile à lire et à comprendre, la méthode Falk, qui a fait une petite application pour une personne qui est en emploi ou en recherche d'emploi. Aussi. Donc il y a des choses qui se développent un peu là-dessus, mais on va dire que c'est des outils qu'il va falloir nous voir comment les personnes peuvent se les approprier, parce que je pense qu'on n'est pas persuadé qu'elles vont remplacer ou solutionner le problème de la situation d'illettrisme, en fait. Pas pour l'instant en tout cas, peut-être avec des progrès de l'intelligence artificielle, etc., il y aura des choses qui vont se faire là-dessus, mais pour l'instant il y a bien des apprentissages. Et puis ça voudrait dire aussi presque créer une application pour un parent pour aider son enfant à faire ses devoirs. Là on en arrive là à un moment donné. Donc voilà, ça ne solutionne pas tout.
Bien sûr. Est-ce que vous travaillez aussi avec le CNL, le Centre National du Livre, qui subventionne tout ce qui va dans le sens de l'aide à la lecture auprès de publics spécifique. Le CNL indiquait récemment dans une de ses publications qu'il y avait une baisse de lecture, notamment chez les jeunes. Est-ce que ça, quand on lutte contre l'illettrisme, ça inquiète, ça préoccupe ?
Alors, à mon niveau, en tout cas pour l'instant, je ne travaille pas encore avec le CNL. Mmh. Par contre, j'ai l'occasion de rencontrer notamment des centres sociaux sur la Nièvre, sur lesquels on discute de la prévention, de la lutte contre l'illettrisme, de la prévention de l'illettrisme, et pour lesquels des centres sociaux évoquent mettre en place des actions aussi d'animation pour faire travailler les enfants à l'écriture ou leur donner... participer aux acteurs qui leur donnent le goût du livre, en fait, ou le goût de la lecture. Mmh. Donc il y a des actions qui se mettent en place comme ça. C'est une veille qu'il faut qu'on aille, effectivement, que ça soit... voilà. Et même pour les adultes, je vous dirais, hein, parce que, notamment, il faut savoir que les personnes en situation d'illettrisme ou qui ont des grosses difficultés de lecture n'ont pas beaucoup d'ouvrages adaptés, en fait. Et on peut être tenté, lorsqu'on les accompagne, de leur proposer des livres d'enfants, alors que ce sont des adultes.
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc il y a aussi un travail pour nous aussi hein, de ressources pédagogiques pour faire que il y a des outils qui soient motivants aussi pour des adultes. J'ai vu il n'y a pas longtemps une société d'édition qui sortait des livres en méthode facilitée en termes de lecture de romans qu'on trouve aussi dans les librairies. Donc nous aurons l'occasion, je pense, de travailler effectivement dans le cadre du plan d'action sur la valorisation de la lecture.
Encore une autre question que je pose peut-être plus spécifiquement à Ajar Ouari. Est-ce que vous, parmi les personnes que vous aidez, il y a des personnes qui ont su lire et écrire et qui auraient oublié à force de ne plus pratiquer ?
Oui, ça arrive justement. Dans le réseau des apprenants qu'on accompagne, non. Mais justement, en rencontrant des partenaires, des centres sociaux, des travailleurs sociaux, justement, on écoute, on entend des expériences des personnes qui ayant été à l'école. Ils n'avaient pas des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul, mais à force de ne pas lire, par exemple, quotidiennement, à force de ne pas utiliser forcément ses compétences quotidiennement, on se retrouve avec un degré léger d'illettrisme, un degré 3 ou 4, qui nécessite juste un accompagnement léger de quelques heures, quelques semaines ou quelques mois. Et puis,
pour reprendre
justement. Mmh. Ouais.
Alors, si des personnes qui nous écoutent se sentent concernées ou ont dans leur entourage des personnes qui semblent souffrir d'illettrisme, qui contacter? Comment on contacte la plateforme Être en toutes lettres?
Comme on a voulu simplifier ce contact, il y a tout simplement un numéro vert gratuit qui est le 0 800 11 10 35. Voilà, sur lequel donc on peut nous contacter et puis discuter avec la personne et proposer une rencontre, alors qui peut être externalisée, hein, qui est à proximité de la personne, et pour en proposer une rencontre et puis discuter avec la personne effectivement de ses attentes, de ses besoins, de ses difficultés, et puis voir avec elle ensuite pour une proposition d'accompagnement.
Et si on souhaite s'engager auprès de votre lutte, rejoindre votre combat et participer comme bénévolement ou alors même soutenir financièrement, qui contacter, comment faire?
Le même numéro. Peut servir à ça, puisque en fait, le binôme va gérer ce numéro de téléphone au quotidien, le binôme que nous sommes. Donc oui, on peut nous joindre directement sur ce numéro aussi pour une personne qui voudrait. Après, sur les questions des financements, ça c'est, vous parlez de...
J'ai pu voir dans un article ancien que le conseil départemental avait débloqué 160 000 euros pour développer justement ce... cette lutte, si des personnes souhaitent soutenir financièrement, puisque le bénévolat c'est une chose, mais peut-être que l'AFPLI a besoin de d'autres structures. Voilà. Vous avez parlé d'une structure dont le nom m'a échappé, à 2-6 par exemple, qui a peut-être besoin de finances.
Si quelqu'un veut faire un don de ces associations, il vaut bien en faire le relais. Il n'y avait pas de souci.
Puisque vous pouvez coordonner les aides. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être un point qu'on aurait oublié, quelque chose qu'on n'aurait pas dit au cours de cette émission? Dominique?
Peut-être rajouter que il ne faut pas que les personnes hésitent à nous contacter, comme on disait pendant l'émission. Ne pas avoir honte. Si elles nous appellent, elles vont tomber sur des personnes bienveillantes.
Donc on se retrouve à la FOL donc avec Arthur et puis Chantal Belliot qui est bénévole auprès de la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Je commence par poser donc quelques questions à Arthur donc qui souffre d'illettrisme, des difficultés dans la lecture et dans l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire ou des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre enfance par rapport à la lecture et à l'écriture? On vous écoute, Arthur.
Oui, bonjour. Oui, bon, des difficultés, j'en ai rencontré quand j'étais à l'école. Parce que, bon, j'ai été opéré d'un dyscalculie et j'ai pas pu faire la scolarité normale. Donc après, bon, j'ai suivi le parcours comme tout le monde. Après, bon, en classe, c'était un petit peu dur. Après, j'ai passé mon permis de conduire, que j'ai réussi. Je suis bien content. Après, bon, dans la vie à l'heure actuelle, les problèmes, on en rencontre pas mal. Parce qu'on tombe sur les panneaux, on peut pas aller en vacances, parce que l'autoroute, c'est pas évident pour nous, pour gens comme nous. Autrement, dans l'ensemble, ça va. Maintenant, ça va super mieux, parce que je fais des cours. Alors maintenant, bon, mes panneaux, tout ça, j'arrive à m'orienter, tout. Franchement, la lecture, c'est super bien. Donc, je vous dis, franchement, ceux qui veulent apprendre à lire, à écrire, je sais que c'est dur, mais accrochez-vous. Franchement, après, vous allez voir, ça vous change complètement la vie.
Alors, qu'est-ce qui a produit le déclic et vous a décidé à vous faire accompagner et notamment, peut-être, je ne sais pas, à utiliser la plateforme Être en toutes lettres? Comment ça s'est fait?
Ça, c'est mon travail. C'est au boulot qu'ils m'ont demandé d'aller faire des cours de lecture. Parce que vu que dans mon travail, je fais de l'ordinateur que je ne pouvais pas faire, ça c'est pareil, c'est une difficulté que j'ai rencontrée que je ne pouvais pas. Donc, ils m'ont demandé d'aller faire les cours. Et après, eux, ils connaissaient ici. Donc, je suis venu avec... C'est tout ça qui m'a présenté à Yannick, et après, c'est fait comme ça. Après, j'ai eu un bénévole, Chantal, et après, c'est sans manger comme ça. Et ça fait 4 ans, on va attaquer la 5e année. Mais c'est long, mais c'est comme ça.
Comment vous viviez votre illettrisme? Est-ce que c'est quelque chose que vous dissimuliez? Est-ce que vous avez souffert de moqueries de temps en temps?
Non, je ne vais pas dire que c'est l'illettrisme, parce que l'illettrisme, pour moi, non, je me débrouillais quand même, j'ai passé mon permis de conduire, je savais un peu quand même me débrouiller, un peu la lecture, mais pas tout, comme maintenant. Après, le moquerie, non, je n'en ai pas eu. Parce qu'on le cache, ça, on ne montre pas. Vous ne montrez pas ça, que vous ne savez pas lire ou écrire. Ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils sont comme ça, mais pas la peur. Maintenant, l'illettrisme, pour moi, c'est rien. Surtout à l'heure actuelle. Avant, oui. Oui, mais plus maintenant. Maintenant, il y a des gens qui peuvent vous aider. Allez-y. Franchement, allez-y.
Alors, je passe maintenant la parole à Chantal Belliot qui vous accompagne pour apprendre dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Arthur et quel était son niveau au début de l'accompagnement?
Ça fait 4 ans. En septembre, on commencera la 5e année. Au début, il reconnaissait quelques lettres et il associait pas les sons. Et donc, on a repris les bases. On a repris les sons et puis associer les sons pour former les mots, etc. Mais il est très motivé. Donc, ça a été plutôt facile. Voilà. Ce qui a été compliqué, c'est que toute sa vie, il s'est débrouillé avec sa mémoire visuelle. Et là, dans les premiers temps, il fallait qu'il s'occupe de sa mémoire auditive, qu'il avait moins, évidemment, de fait, moins développée. Donc, on a bien insisté sur la musicalité de la langue et l'étude des sons. Et puis, à travers des textes au départ hyper simples. Mais c'était une histoire suivie, donc c'était intéressant de la poursuivre de vendredi en vendredi. Et maintenant, moi, je pense qu'il sait lire. Il est lent dans la lecture parce que c'est toujours un processus un peu lent, mais il va de plus en plus vite. Et il lit maintenant tout. Il peut se débrouiller complètement. D'ailleurs, on attaque maintenant, depuis cette année, en fait, en lecture, on partage le temps entre de la lecture, de la grammaire, un peu de conjugaison, les choses qu'il n'a pas pu faire à l'école.
Donc là, moi, je vous interview juste avant justement une séance de travail. Qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, pour la séance de travail qui arrive?
Alors aujourd'hui, on a prévu de finir son roman. On lit les histoires vraies, parce que c'est des personnages historiques, donc c'est intéressant. Et après, on va enchaîner sur de la grammaire. Je vais vérifier. Il fait des exercices à la maison, en plus, Arthur. Donc je vérifie, et puis on fait des exercices de grammaire et de vocabulaire.
C'est quelle fréquence, à peu près de cours?
Une fois par semaine.
D'accord. Et depuis combien de temps vous travaillez auprès de la FOL pour aider justement les personnes qui souffrent d'illettrisme?
Depuis 2021.
Et c'est votre métier? Vous étiez enseignante?
Oui.
Avant?
Moi, j'étais enseignante et directrice d'école et formatrice aussi des futurs enseignants. Et moi, je ne sais pas faire grand-chose à part enseigner. Donc, donc j'avais envie de continuer un peu à travailler. Donc voilà. C'est complètement différent que de l'apprentissage des enfants, l'apprentissage aux adultes, et en plus en cours particulier. Mais c'est hyper intéressant aussi.
Les autres questions, c'est toujours en cours particulier ou des fois il peut y avoir des travaux en groupe? Puis autre question, est-ce que tous vos apprenants sont aussi motivés et assidus que Arthur?
Les cours sont particuliers parce que c'est leur choix. Moi, ça ne me dérange pas de prendre plusieurs personnes, mais la plupart des apprenants préfèrent être seuls parce qu'ils sont à un temps donné et ils n'ont pas envie de partager le temps, et c'est plus simple. Alors motivé, moi j'ai un autre apprenant qui est motivé aussi, mais qui est beaucoup plus en difficulté que Arthur. Et voilà, pour l'instant c'est encore un peu compliqué pour lui, mais il aime bien venir et voilà, je ne sais pas, il faut trouver une stratégie pour l'aider, mais voilà.
Je retourne vers Arthur. Depuis que l'apprentissage commence se fait depuis 4 ans, depuis que vous maîtrisez mieux du coup l'écriture et la lecture, est-ce que vous avez gagné en confiance? Et puis pour la lecture, est-ce que vous avez découvert un nouveau plaisir?
Oui, j'ai découvert un nouveau plaisir. Maintenant, j'arrive à lire presque tout. Mais il y a des moments, je vais lire 5, 6, une dizaine de phrases. Puis après un moment, ça fatigue. Parce que je travaille aussi à côté, donc j'ai un métier aussi à côté, donc ça fatigue beaucoup. Ça fatigue énormément. Mais je suis content du résultat que j'ai fait. Franchement, je suis très content.
Et puis une dernière question, est-ce que vous vous appuyez sur des dispositifs numériques? Ou est-ce que vous appuyez sur des dispositifs numériques, des fois justement pour faciliter l'écriture ou la lecture? Par exemple, faire des vocaux sur le téléphone au lieu d'utiliser le SMS? Un logiciel qui viendrait directement écrire quelque chose que vous dictez, non?
Non. Non, non, ça, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. J'arrive à lire les textos que Chantal m'envoie, ça, oui, non, mais tout le monde reste, non. Je ne suis pas informatique, alors. Ça, non. Informatique et moi, ça fait deux.
Et quelle perspective, du coup, dans ce suivi et cet apprentissage de la lecture et d'écriture? Est-ce qu'il y aura, vous voyez, un terme? Est-ce que ça va continuer encore sur quelques mois, sur quelques années? Comment se dessine la suite?
Tant que je ne sais pas bien lire comme j'en vis, moi, quand je sentirai que ce sera bon, j'arrêterai. Ça peut durer tant que Chantal voudra de moi. Tant que Chantal voudra de moi, on continuera. Ça peut continuer un an, deux ans, je pense qu'encore... allez, je vais me laisser encore trois ans, puis après, ça sera bon. Si Chantal est venue de moi, je dis bien, ça veut de moi encore. Hein.
Donc, pour tous ceux qui souffrent de ces difficultés et qui n'osent peut-être pas franchir le pas, vous pouvez leur dire que c'est facile de prendre contact sur la plateforme Être en toutes lettres ou de prendre contact directement avec l'AFOL.
Ah oui, il faut prendre contact avec l'AFOL, là-dessus, il faut prendre contact. Et puis, je vous dis, des bénévoles comme Chantal, franchement, moi, j'ai trouvé une bénévole super, hein, franchement. Mais par contre, il faut s'accrocher. Parce que maman... bah, elle vous donne du travail à faire, hein, là, à vous loupe pas, hein, franchement, non, elle vous loupe pas du tout, hein, mais allez-y, hein, franchement, allez les voir, franchement, ils sont super gentils, et puis faut pas avoir peur de passer le cap, ça je vous le dis, faut pas avoir peur.
Ben, merci beaucoup Arthur, et bon courage pour la suite, et merci beaucoup Chantal Belliot pour ce que vous faites pour Arthur et auprès de la FOL. Gérard, vous vouliez rajouter quelque chose ?
J'aimerais juste rajouter que toute personne peut nous contacter sur ce numéro vert, que ce soit une personne concernée, un bénévole ou une personne qui souhaite nous rejoindre, ou un professionnel qui a besoin de plus de renseignements ou qui a besoin d'orienter une personne concernée. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro vert.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous renseigner sur l'illettrisme et de nous avoir précisé les actions de la plateforme Être en toutes lettres. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur BAC FM et d'ici là, profitez du printemps.